béni soit le Seigneur. Je vous salue à nouveau dans le nom de Jésus ce matin. J'espère que les uns et les autres nous sommes bien disposés à recevoir le conseil de Dieu. Que nous puissions dire comme le jeune Samuel autrefois, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Amen.
Je voudrais remercier le frère Gagou et l'ensemble des serviteurs de Dieu qui m'ont fait confiance, il y en a encore quelques-uns, et qui m'ont invité pour partager avec vous la parole du Seigneur dans ce séminaire. Nous avons dit hier soir que l'un des grands messages du livre de l'Apocalypse, c'est que le diable ne gagne jamais. Il peut se déchaîner, il peut multiplier ses manœuvres, ses stratégies, mobiliser ses hordes de démons. Les événements peuvent nous donner l'impression pour un temps que c'est lui qui gagne, mais la parole de Dieu nous montre que Dieu est sur son trône, il est aux commandes, il conduit les nations, il abaisse ses regards sur la terre, il regarde les fils de l'homme, il a tout dans sa main et Dieu gagne toujours. Et cet esprit de victoire, Jésus, a voulu l'insuffler aux églises dès le début de ce livre. Il s'adresse aux sept églises d'Asie mineure. Et à la fin de chacun de ces messages prophétiques, Jésus dit trois fois à celui qui vaincra et quatre fois celui qui vaincra. Et derrière ces paroles, il y a des promesses de bénédiction pour le temps présent et pour l'éternité. Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe, moins que jamais dans les temps où nous sommes, d'être des chrétiens battus, défaits par l'ennemi. Alors que notre maître est vainqueur, alors qu'il nous donne tout pour triompher, et que son désir est que l'Église soit triomphante. L'apôtre Paul a écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu » qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Et il est important que cet esprit de victoire nous anime, vainqueur dans ma vie personnelle, vainqueur dans mon foyer, vainqueur dans mon environnement quotidien, que mon Église soit triomphante, parce que c'est encore une fois la volonté de Dieu pour notre vie. Je voudrais commencer un tout petit peu ce matin à sonder avec vous le chapitre 21 de l'Apocalypse, puisque je vous l'ai dit, nous parlerons jusqu'à samedi matin de la Nouvelle Jérusalem. Nous allons nous contenter, et ce sera largement suffisant, du verset premier pour l'instant. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Avez-vous remarqué le premier mot? Puis, nous on passe là-dessus. On va vite dans les pierres précieuses, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, je vis. Mais avant ce chapitre 21, que de révélations l'apôtre Jean a reçues. Concernant les choses d'en haut, il a vu le trône de Dieu dans toute sa splendeur. Il a vu les myriades, les milliards d'anges adorant le Seigneur et l'agneau. Il a vu, par anticipation, la foule de rachetés venant de la grande tribulation. Avant tout cela, il a vu les problèmes dans les églises locales sur la terre. Il a vu les grands événements qui vont bientôt se dérouler sur la planète, plus effrayants les uns que les autres. Il a vu la montée et le règne de l'Antéchrist. Il a vu la montée et le travail du faux prophète. Il a vu tout ce système planétaire qui est en train de se mettre en place. J'y ferai courtement allusion dans ce séminaire. Une plateforme politico-religieuse qui va broyer tout ce qui est de Dieu. Alors, on pourrait se dire, après tout ça, il peut mourir. Mais non, il écrit au chapitre 21, « Puis je vis ». Parce que, voyez-vous, tant que nous sommes encore sur la terre, tant qu'il y a encore du souffle dans nos narines, nous sommes toujours en devenir. Et notre vie chrétienne, tant que nous ne sommes pas morts, elle continue toujours. Et nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Tu as été sauvé, Dieu soit béni, il faut maintenant que ça continue. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, Dieu soit béni, il faut que ça continue. Tu as reçu un ou plusieurs dons spirituels, il faut aller encore plus loin. Tu as gagné des âmes au Seigneur, il faut en gagner encore plus. Tu as fait de belles expériences avec Dieu, il faut encore avancer dans cette direction-là. Le fleuve de Dieu est de plus en plus puissant, et il faut que tu y avances jusqu'à perdre pied, et que ce soit lui qui t'emporte, et qui te dirige dans les voies de Dieu. Je ne sais pas si ce matin tu peux dire il y a ce puits, pas un puits qu'on creuse, hein, ce puits PUIS, cette suite, où est-ce que tu t'es arrêté? Ça, c'est une bonne question pour ce matin. Amen. Seigneur, est-ce que je peux te dire avec joie, il y a ce puits, parce que j'avance encore. Il y a ce puits, parce que j'en désire toujours plus. Je veux toujours plus avancer dans tes voies. Vous savez ce que dit le livre des Proverbes, le sentier du juste est comme la lumière dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire que ma vie chrétienne, elle se développe, elle croît, elle grandit, elle s'affermit. Il n'y a pas de déclin, ça va de mieux en mieux jusqu'au milieu du jour. Nous courons dans la carrière qui nous est ouverte. Nous essayons de faire de plus grands progrès avec le Seigneur. Et je vois cet esprit-là dans l'enseignement apostolique. Quand je lis les épîtres, que votre foi fasse de grands progrès, que la charité de chacun de vous augmente de plus en plus. Nous sommes appelés à nous développer dans la sanctification, à grandir dans la connaissance de Christ. Seigneur, mets ces dispositions-là dans mon cœur, que je cherche à aller plus loin avec toi. Voilà pour le premier mot. Puis, je vis. J'ai remarqué dans ma Bible qu'en ce qui concerne l'être humain, tout commence par la vision. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Toute l'histoire de l'humanité dans son drame a commencé par les yeux. Elle a vu, elle a pris, elle a mangé, et ce fut le chaos. Mais ça a commencé par les yeux. La Bible dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. il ne dort pas dans cette nuit d'insomnie, au lieu de prier ou de lire des textes des Écritures, il se promène sur sa terrasse et il voit Bathsheba. Elle aurait mieux fait de fermer sa salle de bain, parce qu'on parle de David, mais enfin l'autre là. Hein? Et ça a commencé par le regard, là encore. Et plus rien dans la royauté de David ne sera pareil après. Lisez bien, ce n'est plus le même homme après. Tous ses ennuis familiaux, toutes les intrigues de son royaume naissent après cette chute. Mais je me dis que si le mal, les chutes, les drames, les chaos à l'échelle du peuple de Dieu en général, ou pour nos foyers ou notre vie personnelle, ça commence par les yeux, je me dis que par les yeux peuvent commencer de bonnes choses. Alors, le Seigneur a tiré son peuple d'Égypte, et lui, il commence à le conduire dans le désert. Et c'est un peuple qui doit être nourri, qui a faim. Et Dieu va pourvoir. Au matin, nous dit le livre de l'Exode, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient. C'est-à-dire qu'ils ont porté leur regard, leur attention sur la visitation de Dieu. Ils ont porté leur regard sur la prévoyance de Dieu, sur la bonté, la générosité, le miracle de Dieu. Ils regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Manou, Manou, qu'est-ce que c'est ?» Et c'est pour ça qu'on a appelé cet aliment la manne. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Le peuple a vu, il a pris et il a mangé. Mais cette fois, c'était pour vivre. Pour vivre. L'apôtre Jean dit donc au chapitre 21 de l'Apocalypse, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Il est très important que nos yeux soient en bon état. Jésus dit que si notre œil est en bon état, notre corps tout entier sera éclairé. C'est vrai physiquement, mais c'est vrai spirituellement. Et j'ai remarqué une constante dans la parole de Dieu, c'est que quand le Seigneur se révèle à ses prophètes, souvent il pose la question, que vois-tu? Qu'as-tu vu? Parce que Dieu a montré des choses, mais il veut savoir si le prophète a bien capté les choses. Qu'est-ce que tu as vu? Que vois-tu? Et quand le prophète décrit en détail les choses que Dieu lui a montrées, alors Dieu va plus loin. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens qui avaient été tellement bénis. Bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui avaient déjà reçu tant de grâces en Jésus, au point que, verset après verset, Paul écrit aux Éphésiens, en lui, en lui, en lui, en lui. Il va leur rappeler leur passé. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Il va leur parler de leur présent. Maintenant, vous êtes ressuscités en Christ, avec Christ. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. On pourrait se dire, bon, ben c'est bien, ils sont arrivés. Pourvu que nous, ce matin, on n'est même pas au stade où étaient les Éphésiens. Paul dit, maintenant, je fléchis les genoux devant le Père. Je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur et que vous sachiez. Vous avez encore besoin d'une nourriture nouvelle. Il faut que vos yeux soient illuminés. Et lorsqu'ils vont être illuminés, alors vous allez savoir. Vous allez entrer dans une connaissance spirituelle plus profonde, dans des richesses nouvelles. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel.
Amen.
Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Qui connaît ça ce matin? Si tu connais ça, garde-le. Progresse dans cette voie. Si tu ne le connais pas, il y a là un sujet de prière. Seigneur, illumine mes yeux, afin que je sache. Hier, je vous ai laissé une pensée forte. Ce matin, je vais vous en laisser une deuxième. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller plus loin. Je voudrais vous dire ceci. Pour notre passé misérable, et pour chacun de nous, notre passé n'est pas glorieux, notre foi a dû se nourrir de ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a dressé une croix sur le mont Golgotha pour y donner son Fils. Et en ce qui concerne notre passé misérable, notre foi a dû se nourrir de ce que Dieu avait fait. Je sais bien que nous sommes dans un séminaire. Je sais bien que je m'adresse à des collègues savants dans les choses de Dieu. Qu'il y a ici un peuple qui connaît bien des choses de Dieu. Et je ne crains pas de vous rappeler le cœur de l'Évangile.
Amen.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, si tu es là ce matin, et si je suis là, c'est parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit a pu agir dans ton cœur et dans le mien pour déclencher en nous une foi qui a été capable de se nourrir pour balayer un passé misérable, se nourrir de ce que Dieu a fait. En ce qui concerne ton présent, mon frère, ma sœur bien-aimée, à 4 reprises dans la vie, Habacuc, Romain, Galate, Hébreux, à 4 reprises, Dieu dit, mon juste vivra par la foi, pas par ses efforts, pas par ses mérites, pas par ses actes de piété déclenchés par une énergie charnelle, mais mon juste vivra par la foi. Pour notre passé, notre foi s'est nourrie de ce que Dieu avait fait. Pour notre présent, écoutez-moi bien, pour notre présent, Votre foi ne se nourrit pas de ce que Dieu a fait. C'est fait. Elle va se nourrir de ce que Dieu fait. Parce que Dieu est en travail. Et il fait des choses pour nous dans le Christ. Ton présent va dépendre de ce que ta foi va être capable de se nourrir de Jésus. Ils l'avaient suivi, même pas parce qu'ils avaient vu un miracle, mais parce qu'ils avaient mangé gratuitement. Et ils se sont dit, ça c'est bien, un séminaire avec Christ, et en plus c'est lui qui paie la pension. Alors ils l'ont suivi. Mais quand Jésus avait ses auditoires devant lui, lui savait ce qu'il y avait dans les cœurs. Et parfois nous, il vaut mieux pas le savoir. Mais Jésus, lui, le savait. Et il a dit, mais vous me suivez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié. Et après avoir multiplié les pains et les poissons, il va leur parler d'un autre pain. Et là, il va y avoir moins de clients. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Tiens, c'est une autre manne. C'est une autre alliance. C'est un autre testament. Il n'est plus question de la manne, mais d'une nourriture spirituelle. Un pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il va même dire des choses étonnantes. Celui qui mange ma chair, il ne parle pas de la Sainte Cène. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Se nourrir du sacrifice de Jésus, de tout ce qu'il y a en lui, de toutes les victoires en lui. Mais comment faire? Comment l'Israélite pouvait-il remplir son omer de manne s'il ne l'avait pas regardé? Et vous avez observé avec moi dans le texte de l'Exode que je vous ai lu qu'avant de ramasser la manne, il regardait. Tu ne peux pas prendre une nourriture sur laquelle tu n'as pas porté tes regards. C'est vrai pour le bon, c'est vrai pour le mauvais. Si Ève n'avait pas porté les regards sur ce que Dieu avait défendu, elle ne se serait pas nourrie de ça. Alors il a dit qu'il était le vrai pain. Mais comment se nourrir? Oh, quelques lignes plus loin, juste quelques lignes plus loin, il ajoute. La volonté de mon Père, c'est que quiconque. Je ne sais pas si vous saviez que votre nom était dans la Bible. Mais quiconque, c'est toi, mon frère. Quiconque, c'est toi, ma sœur. N'importe qui peut mettre son nom ici. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Amen. Seulement, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le grec ne dit pas quiconque voit le Fils. Le Nouveau Testament dit quiconque contemple le Fils. On peut voir sans contempler. On peut voir sans admirer. On peut voir et rejeter. Mais là, le Saint-Esprit entend bien que non seulement tu portes tes regards sur Jésus, mais que tu le contemples, parce qu'il est admirable. Amen. Je n'ai pas l'habitude de faire lire mes notes à mon épouse avant que je prêche, pour qu'elle contrôle mon message ou qu'elle sache sur quoi j'allais prêcher. Et quand elle a prophétisé ce matin, elle ne savait pas ce que je dirais. Mais je crois que dans nos cultes, Le Saint-Esprit trace le chemin par toi comme des petits cailloux. Alors il y a eu le temps de louange, et puis il y a eu la prophétie, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il fallait porter les regards sur lui. Il fallait le contempler, il fallait l'admirer. Et le Saint-Esprit nous a dit qu'il était glorieux, Jésus. Il était magnifique, extraordinaire. Alors il y a ce message évangélique qui s'adresse cette fois aux disciples, mais quiconque contemple le Fils à la vie. Parce que si tu le contemples ce matin, mais tu vas prendre cette main, Dieu, tu ne vas pas dire qu'est-ce que c'est, parce que le Saint-Esprit va te faire sentir ce que c'est. C'est ta vie, c'est ta force, c'est ta consolation, c'est ton espoir, c'est ta foi, c'est ta victoire, c'est ta connaissance, c'est ton intelligence. Nous avons tout pleinement en Jésus, nous lit la Bible. Nous sommes accomplis en lui. Pour notre présent, notre foi se nourrit de ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. La faiblesse de nos églises, je vous le dis, la faiblesse de nos églises tient au peu d'attrait que nous avons pour Jésus. Vous direz, mes frères, vous exagérez, j'aime Jésus. Qu'est-ce que tu connais de lui? Tu t'approches de lui chaque jour pour déposer à ses pieds ton paquet de linge sale. Bénis, guéris, interviens, secours, console. Quand tu ouvres sa parole, tu es à la recherche de versets pour ta vie, une direction, une consolation, une bénédiction. Mais quand est-ce que tu vas ouvrir cette Bible pour le contempler? Pour le contempler, pour l'admirer. Pour être là pour lui, pas pour toi, pour lui. Être là, genoux devant lui, dans ta vie de prière personnelle, non pas seulement pour des intercessions, qui sont certes indispensables. Il faut prier, il faut intercéder, il faut supplier. Mais Dieu demande des adorateurs. Est-ce que nous avons connu cela seulement un jour dans notre vie? Être devant lui pour le contempler. Le contempler. Parce qu'il mérite de l'être. Et quand nos yeux auront été portés sur lui, alors oui, nous allons nous nourrir de sa personne. Et nous allons dire, Seigneur, par ton esprit, prends de ce qui est à Christ et annonce-le-moi. Par ton esprit, rappelle-moi ce que Jésus a enseigné. S'il te plaît, forme en moi, Jésus. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Elle avait 14-15 ans, Myriam. Et elle ne s'attendait pas à son destin. Le Saint-Esprit lui a annoncé qu'elle deviendrait enceinte et qu'elle mettrait au monde le Fils de Dieu. Mais comment ça va se faire? C'est une jeune fille. Écoutez, le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira son nom, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu. Il a couvert Marie de son nom. Et là, à l'intérieur d'elle, il y a eu un miracle. Sans l'intervention humaine, le Christ, homme, a été formé en elle. Eh bien, je crois que Dieu veut faire cela pour nos églises. Elle décide vraiment de revenir vers le Seigneur. Pour que le Saint-Esprit vienne et nous couvre de son nom. Et qu'il forme en nous le Christ. Qu'il forme en nous le Christ. au point que nous dirons comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, celui que la Bible appelle le germe de l'Éternel, une semence de vie, de vie divine, de vie sainte, de vie pure, de science, qui va se développer, qui va envahir progressivement tout mon être, au point que ce qui est de moi va disparaître, et je vais ressembler de plus en plus à Jésus. Je crains que notre pancotisme ne soit réduit à une peau de chagrin. Notre pancotisme, ce ne sont pas nos guitares. Notre pancotisme, ce ne sont pas nos synthétiseurs. Ce ne sont pas des réunions que l'on chauffe à blanc, où on amène les chrétiens dans des excitations charnelles, à se trémousser comme des jeunes dans les zéniths. Notre pancotisme, ce ne sont pas des vociférations en langue, où on ne sait plus ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de la chair. Je crains qu'il y ait des déviations graves. Le véritable pancotisme, ce n'est pas seulement de parler en langue. Oh, je crois ça. Moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je crois que le pancotisme, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Et je crois que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Je crois ça de toutes mes forces. Mais je crois que la nature profonde du pancotisme, c'est de permettre au Saint-Esprit de nous couvrir de son nom, afin qu'il forme en nous Jésus. Qu'il forme en nous Jésus. Et que Jésus arrive à maturité. Et pour ce qui concerne notre avenir glorieux, notre foi va se nourrir de ce que Dieu forme. Pour le passé, la foi se nourrit de ce que Dieu a fait. Pour le présent, la foi se nourrit de ce que Dieu fait. Et pour l'avenir, la foi se nourrit de ce que Dieu fera. Et c'est notre texte de ce matin. Puis je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est ça notre espérance. C'est ça notre avenir. Et au lieu de trembler en disant, Seigneur, ça, il y a des choses terribles qui sont en train de se préparer, c'est vrai. Mais Jésus nous a montré le vrai chemin de son Église. C'est de voir que notre foi se nourrisse de ce que Dieu va faire. Quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Savez-vous que le mot grec pour parler de l'homme signifie celui qui est capable de lever les yeux. Parce que nous ne sommes pas des animaux à quatre pattes. Si vous marchez à quatre pattes, vous allez regarder la terre. Mais dans l'essence même du mot homme, il y a un être capable de lever les yeux en haut. C'est ça que Dieu a voulu pour nous. Quand vous verrez ces choses, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Pas facile de mourir lapidé avec des gens qui vous lancent des pierres férocement, qui grincent des dents, qui n'ont qu'une hâte, c'est de vous voir mourir parce que vous prêchez la vérité. Parce que vous êtes gênant pour le système de l'époque. Parce qu'il y a des miracles, parce qu'il y a des prodiges. Qu'est-ce qui va donner à Étienne de tenir dans ce moment terrible son avenir? Et son avenir, c'est quoi? C'est de lever les yeux.
Amen.
Il a encore la force. Il n'est pas encore mort. Et il dit, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est ça qui va nous permettre de tenir. Ah, si tu regardes ta fiche d'impôt, tu ne vas pas tenir. Si tu regardes l'inflation, les prochaines élections, les actes terroristes, tu ne vas pas tenir. Mais le peuple de Dieu est invité à se nourrir pour l'avenir de ce que Dieu fera. Puis je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ils ont marché comme voyant celui qui est invisible. Alors en ce qui concerne notre présent, permettez-moi de vous rappeler ce texte de l'Épître aux Hébreux, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons. On ne peut pas courir avec un sac de 200 kilos sur le dos. Comment tu voudrais courir avec tes fardeaux, quelques péchés qui t'enveloppent, pour déposer tout ça? Tu déposes tout fardeau, tout péché au pied du Seigneur, et puis tu cours dans la carrière qui t'est ouverte, en ayant les regards sur Jésus.
Amen.
En ayant les regards sur Jésus, pour le présent, ta foi, elle se nourrit de ce que Dieu fait en Christ, en ayant les regards sur Jésus, celui qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection. Nous sommes appelés à croire dans le plein sens du terme, et tout le reste va en découler. Je vous ai cité tout à l'heure les quatre endroits où Dieu parle du juste qui vit par la foi. Je voudrais vous citer celui de l'Épître aux Hébreux. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. J'aimerais tant que ce matin, nous fassions cette prière. C'est quelque chose de très important. Seigneur, permets que Jésus ait de plus en plus d'attrait pour moi. Que je sois entraîné à aimer Jésus, à le contempler, à le désirer, à découvrir tous les charmes de sa personne. Les filles de Jérusalem, quand elles ont croisé la Sulamite, la bien-aimée du Cantique des Cantiques, elles ont eu le malheur de lui dire « Mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre ?»« Pour que tu nous supplies de le chercher. » Enfin, qu'est-ce que Jésus a de plus que Mahomet ? Qu'est-ce que Jésus a de plus que Bouddha ? Qu'est-ce que Jésus a de plus que Krishna ? Qu'est-ce que Jésus a de plus que Karl Marx ? Qu'est-ce qu'elles n'avaient pas dit là? Elles lui ont donné la clé qui a ouvert la porte de son cœur et un flot d'amour qui a jailli.
Amen.
Mais mon bien-aimé, mais les plans et merveilles, ces hommes sont des colonnes de marbre, sa tête est resplendissante, enfin elle y va, elle y va, elle y va. Imaginez que je sois le pire des païens. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'il a de plus qu'on Jésus? Qu'est-ce que tu vas répondre? Il t'a guéri? L'autre, il va dire, va les médecins aussi. Il t'a consolé? Bah oui, bah moi j'ai des bons copains qui ont su me consoler dans mes coups durs. On n'a que ça à dire? T'as que ça à dire? Ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que t'as à dire sur ce qu'il est? Sur ce qu'il est? C'est ça qui va nous permettre de tenir. Quand Jésus parle de nous nourrir de lui, c'est pas nous nourrir de ce qu'il fait, c'est nous nourrir de ce qu'il est. Quand il parle de sa chair, quand il parle de son sang, c'est ce qu'il est. J'aimerais tellement que nous comprenions ça. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on voit ce point-là? Nous sommes les responsables. Continue. Alors, il y a eu un réveil parmi les Italiens. Parce que vous avez lu ça, le témoignage du frère Raposo. C'est dans les années passées. Il était là, dans une petite grange, terre battue. Et puis, il commençait à prêcher l'évangile. C'est les Italiens, là, c'est là. Il semblait rebelle et tout. À un moment donné, il s'est arrêté. Il dit, continue. C'est arrêté. Continue. Je crois que la réunion a duré 5 heures. Vous avez jeûné. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça veut dire que Dieu va tout bouleverser. Et qu'un univers nouveau va surgir. Nouveau ciel, nouvelle terre. Vous savez bien que le Nouveau Testament est écrit en grec. Quelle est la signification du mot nouveau ? Qui vient de se produire, récent, neuf, différent de ce qui s'était produit jusqu'alors, innover. Ce sera un autre monde dans lequel tout péché aura été détruit. Alors on va aller vers un petit verset là dans la description de la Nouvelle Jérusalem. Verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Tu pleures aujourd'hui, mais tu ne pleureras plus. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout ça, ce sera fini. Ça vaut la peine de fixer les yeux vers ça? C'est vers ça que nous allons. Et c'est ça que nous allons partager. Et je vais quand même terminer avec cette pensée-là ce matin, ce verset 4. L'avance un petit peu. Les rachetés dans la gloire ne pleurent plus. Pour plusieurs raisons que je voudrais partager très courtement avec vous. La première raison, c'est que toute cause extérieure de chagrin a disparu. Plus d'amitié brisée. Plus d'espoir déçu, plus de péril, plus de persécution, plus de calomnie. Et c'est pour ça que nous ne pleurerons plus. Plus de douleur, plus de guerre, plus de tribulation, plus de maladies, plus d'hôpitaux, plus de cimetières, plus d'imperfections, plus d'infirmités, plus de pauvreté, plus de corvées, plus de travaux épuisants, plus d'usines, plus de pollution. Quelque chose de nouveau qu'on n'imagine même pas. C'est pour ça que nous ne pleurons plus. La seconde raison, c'est que nous serons parfaitement sanctifiés. Il n'y aura plus rien nous poussant à abandonner le Seigneur. Que de lutte dans ta vie, mon frère bien-aimé. Que de combat dans ta vie, ma sœur bien-aimée, pour tenir. Que de choses qui bouillonnent dans notre tête. Que de choses qui étreignent notre cœur, que de fatigue, que de dépenses dans le combat pour tenir. Mais plus rien ne nous poussera à abandonner le Seigneur. Nous serons devant son trône. Je ne sais même pas ce que je dis. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Mais nous serons devant son trône. Sans aucune faute, sans aucune souillure, enfin pleinement conforme à l'image de Jésus. Ce texte me dit qu'il n'y aura plus de deuil, parce que nous aurons la vie éternelle, parce que la mort aura été vaincue pour toujours, c'est le dernier ennemi, mais pas seulement. Sur la terre, nous ne sommes pas seulement dans le deuil devant un cercueil. Dieu nous appelle à être dans le deuil devant le cercueil de notre âme. Écoutez Jacques, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Et Jacques s'adresse aux juifs chrétiens de la diaspora. Il ne s'adresse pas à des païens. Et à des chrétiens, il dit « Nettoyez vos mains. Elles ne sont pas toujours propres. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, Sentez votre misère. Parfois, on veut toujours que les cultes respirent la joie et une atmosphère extraordinaire. Mais parfois, à peine on est arrivé, le Saint-Esprit pleure déjà. Parce qu'il voit, parfois, vous trouverez que j'exagère peut-être, mais nos églises qui ressemblent un petit peu à des cimetières, des rangées de cercueils, les âmes. Des rangées de cercueils. Alors Dieu dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Non pas parce qu'un frère de l'église est décédé, mais parce que là, ça ne va plus du tout. C'est pas l'heure de chanter. C'est pas l'heure de vous trémousser. Moi, je vous le dis, je vous le lance comme un grand appel. L'église d'Occident, même s'il y a encore des hommes de Dieu malades, même s'il y a encore des communautés qui tiennent la route, je dis globalement, l'Occident, c'est la Odyssée. Et l'église d'Occident a besoin d'être dans le deuil et dans les larmes. Nous avons dérapé. Nous sommes en danger. L'apostasie s'infiltre dans nos églises. Insidieusement, elle arrive même à monter les marches d'estrade. Et l'apostasie, elle est derrière les micros. Elle est dans les prédications, je vous le dis. Vous ne voulez peut-être pas l'entendre, mais nous l'apprendrons à nos dépens. Dieu ne se trompe pas quand il nous dit « Soyez dans le deuil et dans les larmes. » Que votre riz se change en deuil. Dieu le dit que pour la deuxième fois, il parle de deuil. Et que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et voilà pourquoi là-haut, dans la Nouvelle Jérusalem, enfin, je ne sais pas si je dois dire dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez voir, à partir de demain, c'est plus complexe qu'il y en a l'air. En tout cas, il n'y aura plus de deuil. Parce que nous serons semblables à lui. Et nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puis nous ne pleurerons plus parce que toute crainte de changement aura disparu. C'est parfois, quand on est dans une bonne situation, on craint un changement. En bonne santé, on se dit pourvu qu'un jour je n'attrape pas le cancer. Un changement dans la santé. Le foyer va bien. Et on se dit, j'espère qu'un jour ça ne va pas voler en éclats. C'est un changement qui pourrait amener tellement de tristesse. Et bien là-haut, toute crainte de changement aura disparu. Nous nous saurons éternellement en sécurité. La cité de Dieu est imprenable. Notre soleil ne se couchera jamais. Et savez-vous, nous boirons à une eau qui ne cessera jamais de couler. Nous cueillerons les fruits d'un arbre qui ne se flétrira jamais. L'éternité va demeurer inépuisable. Nous serons immortels. Notre bonheur n'aura pas de fin. Quelqu'un voulait un jour imager l'éternité. Alors, ce qu'il a dit, c'est complètement fou. Mais ça nous donne une petite idée. Il a dit, imaginez un petit oiseau. Je vous dis encore une fois, c'est complètement fou. Hein. Mais imaginons, un petit oiseau qui prenne dans son bec une toute petite pincée de terre et qui l'amène jusque sur le soleil. Il serait grillé avant, hein. Mais gardez l'image. Puis revient sur la terre. Il reprend une petite pincée de terre et il la ramène sur le soleil. Quand il aura ramené toute la terre sur le soleil, ce sera le tout petit début de l'éternité. Voilà pourquoi nous ne pleurons pas. Ça durera toujours. Et puis, la dernière raison, c'est que tout désir sera satisfait, assouvi. Parce que nous ne pourrons pas souhaiter quelque chose qui ne soit pas déjà en notre possession. Parfois sur la terre, nous souffrons parce que nous désirons quelque chose de légitime et nous n'avons pas. Et tant qu'on ne l'a pas, il y a une attente, il y a une insatisfaction. Dans la Nouvelle Jérusalem, nous ne pourrons pas souhaiter quelque chose qu'il soit déjà en notre possession, nous aurons tout. Vous imaginez ça? Notre œil sera rassasié. Incroyable tout ce qu'on va voir et contempler. Notre oreille va être satisfaite. Imaginez les milliards de harpons. C'est curieux, il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de... J'imagine pas les anges dans le trône. Ne riez pas, ils vont pleurer. Ça, c'est pas de l'adoration, c'est de l'excitation. Mais là-haut, c'est... ce sont des harpes. Écoutez la harpe, vous allez voir comme c'est un second. Et des myriades de dents vont jouer. Une foule que personne ne peut compter va louer le Seigneur, un bruit comme des grosses eaux, de fortes mers. Notre oreille va être satisfaite. Notre cœur va être comblé. Notre main va être remplie. Notre imagination, notre espoir, notre volonté, toutes nos facultés vont être entièrement satisfaites. Un état de bonheur extraordinaire. Les saints au ciel vivent un bonheur suprême. Déjà. Et nous, on va vers ça. Puis je vis. Je ne sais pas si tu vois ça dans ton cœur, ça. Mais c'est ça qui va te donner la forme. Qui va te donner l'énergie de continuer. La joie de Christ, qui est une plénitude de délices, va habiter le cœur des élus pour toujours. Le même repos joyeux est pour nous, et personnellement je crois qu'il n'est pas éloigné, quand l'apôtre Paul a parlé du retour de Jésus dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il a parlé de l'enlèvement de l'Église, et puis il termine son exposé en disant « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Deux mots sur l'expérience de ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle ne connaissait pas le Seigneur. Elle avait trois enfants, deux filles et un fils, et un mari ivrogne invétéré. Un ouvrier qui, à la sortie de l'usine, au lieu de rentrer chez lui, allait de bar en bar. Et rentrait chez lui, ivre, comme une bête fauve, les yeux injectés de sang. Et tous les soirs, c'était l'enfer. Il se ruait sur ma grand-mère, la frappant et la frappant, la tirant à même le sol par les cheveux. Et on savait à quelle heure le papa allait rentrer approximativement. Alors les enfants allaient se réfugier dans le grenier pour éviter d'assister à tout ça. Et c'était tous les soirs. Jusqu'au moment où ma grand-mère en a eu assez, elle a ramassé quelques affaires, ses trois enfants, elle est partie. Et elle n'est jamais revenue. Quand lui est rentré, la famille était partie. Plus tard, ma grand-mère a connu l'Évangile. Elle s'est convertie au Seigneur. Son fils, Paul, et c'est pour ça que je m'appelle Paul, s'est converti au Seigneur. Celle qui est devenue ma mère s'est convertie au Seigneur. Celle qui est devenue ma tante s'est converti au Seigneur. Et Paul, jeune chrétien âgé de 17 ans, est tombé malade de la tuberculose. C'était dans les années passées. On ne soignait pas comme aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui cette maladie reste un défi. Et mon oncle, que je n'ai jamais connu, Paul, ce jeune homme de 17 ans, est mort à 17 ans de la tuberculose. Il est mort dans une vision du ciel. La maman était à son chevet, son visage s'est mis à resplendir comme celui d'un ange. Et il a dit, si tu savais comme c'est beau. Et quelques heures après, il mourut. Le dimanche matin suivant, ma grand-mère était au culte. Et vous imaginez dans quel état quand on perd un fils de 17 ans. L'auditoire chantait, mais elle ne chantait pas. Qui pourrait lui reprocher ça? Et à un moment donné, cette voix de Dieu en elle, comme si quelque chose était parti du ciel pour venir la frapper là comme en plein cœur, comme si le Saint-Esprit prenait quelque chose de là-haut pour l'amener en bas dans sa fosse à elle. Cette voix puissante de l'Esprit chante si tu savais comme il est heureux. Chante si tu savais comme il est heureux. Je vous l'accorde, les chrétiens sont fous. Nous ne nous affligeons pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Je sais que c'est très facile à dire tant qu'on passe pas par là, mais j'ai quand même mis mon papa et ma maman en terre. Mais il y a au-delà des larmes légitimes quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ce que le Saint-Esprit, aujourd'hui, peut prendre de ce qui est à Christ et le mettre dans ton cœur, s'il va te permettre, jour après jour, matin après matin, de prendre ton eau mère, de le remplir de cette manne bénie qu'est Christ, et si tu peux te nourrir de Jésus chaque matin, tu vas être fort. Tu pleureras certainement, parce que devant la mort, on pleure, même Jésus a pleuré. Il savait pourtant qu'il allait ressusciter Lazare. Mais on ne ressuscite pas un mort avec un cœur de pierre. Alors Jésus a pleuré. C'était légitime. C'est normal. Mais au-delà de nos larmes légitimes, il y a cette consolation plus forte que tout qui vient d'en haut. Parce que je mords à pleines dents dans ce pain qui est descendu du ciel, le pain vivant. Amen.